Fréquence protestante. Parcours culturel. Robert Philippoussi.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la professeure Corinne Lanoir, qui enseigne l'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie à Paris. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, merci.
Très bien. Alors, vous êtes bien retrouvés sur l'émission Parcours culturel. Et je le rappelle à nos auditeurs, c'est une émission qui se diffuse tous les premiers samedis du mois en direct à 16h15 et qui est ensuite évidemment accessible en ligne sur fréquenceprotestante.com. Cette émission est sous l'égide, on va dire, de l'Atelier protestant. Qu'est-ce que c'est ? Et justement, on va en parler avec Corinne tout à l'heure. Et qui représente aussi la maison fraternelle et tout ce qui grouille autour de la maison fraternelle. C'est une église protestante, certes, mais c'est aussi une ruche d'artistes et de diverses personnes qui pratiquent leur engagement solidaire, artistique et ecclésial. Je rencontre chaque mois des personnes engagées, c'est-à-dire 100% de nos invités sont des personnes particulièrement engagées dans des domaines variés, en particulier artistiques. Mais j'aime bien aussi élargir cette notion d'art, comme cette façon, presque cette façon de faire, cette technique particulière qui appartient à une personne pour faire coïncider ses envies et ses actions, son utopie et sa création pour le monde. Il y a des personnes qui s'engagent et d'autres qui sont engagées. Nuance. Quand je m'engage, je choisis. Et quand je suis engagé, parfois, je ne choisis pas vraiment. C'est pourquoi j'aime bien explorer avec mes invités. Et aujourd'hui, c'est Corinne Lanoir. Ces moments de prémisse de la décision d'une personne qui décide un jour de littéralement s'engager ou choisir une direction. Donc, avec vous, Corinne, comment tout cela a-t-il commencé ?
Eh bien, en fait, je viens d'une famille protestante, pas spécialement militante ni engagée, mais avec une identité un peu forte. Et je crois qu'il y a deux choses qui ont beaucoup joué pour moi. C'est d'une part un catéchisme ouvert dont j'ai profité pendant mon adolescence. Et puis... un geste, je crois, qui pour moi a toujours été fondamental, c'est celui d'aller voir ailleurs, de partir, d'aller découvrir d'autres lieux, d'autres façons de vivre et d'être. Et pendant mon adolescence, j'ai pu être au bénéfice de plusieurs de ces institutions qui aujourd'hui ont un peu du mal à vivre et à continuer.
Lesquels ?
Par exemple, le centre... moi, je suis originaire de Montbéliard.
De Montbéliard, d'accord.
Et donc, il y avait là-bas un centre de rencontre, le centre de Glais,
oui.
Qui n'existe plus, d'ailleurs,
non, mais
comme
qui
beaucoup d'autres centres.
Qui reste dans certaines mémoires, je
bien
pense.
Bien sûr. Hein, ouais. Et qui était un lieu d'engagement pour ceux qui l'ont géré, animé, pour ceux qui venaient.
Et dans ce centre,
là-bas.
Vous étiez... accueillie, participante, vous n'étiez pas du tout en responsabilité dans
oui,
ce genre.
Oui, non, pas du tout.
C'est juste pour que me repère. Et qu'est-ce que vous y faisiez dans ce centre ?
Alors bon, il y avait des week-ends de jeunes, c'était le moment où on faisait beaucoup d'artisanat.
Oui.
Et donc on faisait aussi des week-ends Bible et artisanat.
D'accord.
Et donc là, l'idée c'était que on travaille un texte comme on travaille une matière en fait, que ça peut résister, que on n'arrive pas toujours au but qu'on s'est fixé, que parfois ça marche pas, qu'on n'y comprend rien, que voilà, et que quand on travaille à plusieurs et qu'on utilise un peu aussi les conseils et les méthodes qu'on peut partager ensemble, ça va mieux. Et voilà.
D'accord. Vous confectionnez des choses en lien avec des textes bibliques ?
Alors, c'était pas de l'illustration.
Non.
Mais c'était l'idée qu'ensemble, on pouvait chercher du sens à
D'accord.
la fois dans un texte. Et puis, alors, ça pouvait être une grande peinture murale, ça pouvait être du tissage,
Je
ça
comprends.
Pouvait être toute la poterie, toutes sortes de choses.
Parce que là, vous n'aviez pas à ce moment-là une idée de votre... vocation,
non.
J'emploie des grands mots, mais en même temps c'est un bon mot, hein, c'est un appel, pourquoi pas, être appelé par Dieu ou par quelqu'un. Vous n'avez pas d'idée, mais vous commenciez à explorer un peu cette voie où peut-être cet appel pourrait venir. Et puis après, ce centre de Glais où en même temps...
Alors en même temps, il y a eu un peu les UCJG. Avec
les Unions Chrétiennes de Jeunes Gens.
Voilà, le, le, un camp d'adolescents de Copainville, au Chambon-sur-Lignon, un lieu aussi bien...
Là, c'est une institution qui existe encore, les Unions chrétiennes de jeunes
gens. Ah oui, ça oui, oui, et heureusement.
Oui.
Et puis, il y a eu aussi un engagement dans le COJ, le Conseil œcuménique de jeunesse en Europe.
D'accord.
Où là, j'ai eu l'occasion de rencontrer toutes sortes de gens, de confessions, de réalités diverses en Europe. Et en particulier, c'est un peu là que j'ai découvert, pour moi, l'importance des pays latins et de l'Europe latine.
D'accord. Vous n'y étiez pas particulièrement sensible par votre historique, familial, ni rien
du
tout.
Non. Mais
Et à ce moment-là, vous étiez déjà étudiante en théologie ou...
Alors, ça s'est fait à peu près à
D'accord.
ce moment-là. Oui.
Donc, cette concomitance. Alors, dès le début, en fait, de vos études de théologie, vous aviez cette attirance pour les pays latins.
Oui.
Et le fait que vous l'ayez, cette attirance pour les pays latins, c'est que très tôt, vous avez été appelé à partir bien avant de commencer des études de théologie. Donc, c'est ça qui vous caractérise.
Ben, peut-être, oui, on c'est pourrait sûr. Dire ça voilà. comme ça.
Donc là, j'espère que vous ne partirez pas avant la fin de cette émission, qui, je le rappelle, nos auditeurs durent trois quarts d'heure, ça va.
On va tâcher.
Donc c'est toujours, intéressant et un peu frustrant de tenter de voir avec quelqu'un comment la construction s'est faite pour un engagement précis. On ne parle pas de la personnalité générale, sur tous ces aspects, évidemment, qui serons-nous pour le faire Donc, c'est une sédimentation. Vous arrivez en théologie ?
Oui.
Où ça ?
Alors, un peu par hasard, en fait. Par défaut, je dirais. Parce que... Au départ, je ne voulais pas du tout faire de la théologie. Je voulais être éducatrice de jeunes enfants.
D'accord.
Et pour des questions d'âge, je ne pouvais pas entrer tout de suite dans l'école que je voulais faire. Et du coup, j'ai décidé de faire un an de théologie parce que, justement, j'avais rencontré des tas d'étudiants dans différents endroits. Et j'y suis restée. Et voilà.
Donc, vous n'avez jamais été éducatrice de jeunes enfants, mais de jeunes étudiants, de toute façon, voilà. D'une certaine manière, avec une forme d'éducation. Oui, je vous écoute. Oui.
J'ai commencé à Strasbourg, ce qui n'était pas spécialement latin, disons.
Non.
Et justement, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs assez rapidement. Et donc, après 2 ans à Strasbourg, je suis partie à la faculté vaudoise à Rome.
J'ai une question quand même là qui me vient spontanément dans l'émission, c'est comment vous faites pour partir comme ça, pour décider d'aller ici ? Là, vous êtes jeune, là, vous avez le droit, l'autorisation, vous la prenez, comment ?
Oui, il faut la prendre, et D'accord. puis il faut surtout apprendre la langue qui va avec, parce que sans ça, c'est assez compliqué.
Donc avant de partir ou pendant, vous avez appris l'italien ?
J'ai appris l'italien un petit peu avant de partir, à Strasbourg, et puis ensuite directement à Rome.
D'accord. Et qu'est-ce que vous avez découvert ? Donc, vous êtes resté 2 ans à Strasbourg, à la faculté de théologie protestante d'État de Strasbourg. Ça vous a plu, je suppose, malgré tout, malgré le fait que vous y soyez, voilà, je cherchais un petit peu. Donc, vous avez fui ? Non, vous êtes parti de là pour aller ailleurs.
Non, je n'ai pas fui, mais j'ai pensé que je pouvais trouver d'autres choses qui
m'intéressaient
ailleurs. Et j'ai trouvé.
Comment peut-on décrire cette trouvaille ?
Alors, j'ai trouvé d'abord une église très, très engagée, une église vaudoise, donc avec une identité forte, qui en même temps était en train de se remettre déjà un peu en question. Et puis, ça a continué ensuite parce que l'Italie est un pays où il n'y a pas beaucoup de protestants, mais où il y a aussi eu un grand changement à la fin du XXe siècle, en fait, où d'un pays qui envoyait des gens ailleurs, c'est devenu un pays qui a reçu des immigrés de plus en plus. Alors là, on était encore tout au début. Bon, après, il y aura une autre période de ma vie où je suis retournée en Italie pour travailler, où là, c'était vraiment important, cet aspect-là. Mais c'était aussi une église très ouverte sur le monde. C'était aussi le moment où il y avait des mouvements féministes très forts et qui impactaient le travail qu'on pouvait faire à la faculté. Enfin, il y a eu beaucoup de choses en même temps qui ont été...
Donc chez vous, finalement, d'après ce que j'entends, il n'y a pas eu de dissociation entre... la foi que vous avez reçue, la théologie que vous avez pratiquée et l'engagement. Vous n'avez pas eu besoin, finalement, dans ce parcours, de faire un saut en se disant « j'ai reçu ça, mais je dois avoir ailleurs ». C'est à travers ce passage dans l'Église vaudoise
tout prend naissance
de façon cohérente.
Oui,
et ça l'est toujours aujourd'hui.
Ça l'est toujours, oui.
C'est formidable. Donc là, comment dire, vous n'êtes pas encore prof, c'est juste pour...
Non, ça
vous avez envie d'être prof à ce moment-là?
Pas du tout, non, j'imaginais pas.
Et vous vouliez faire quoi à l'époque? Enfin, dans pasteur ou...
Ben, à vrai dire, au départ, je ne savais pas trop. Ce qui m'a surtout... Enfin, qui, dès le départ, m'a vraiment intéressé dans les études de théologie, c'est le travail biblique.
D'accord.
Et ça, c'est resté aussi.
Voilà. Oui. Vous êtes aujourd'hui professeur d'Ancien Testament à l'Institut protestant de théologie à Paris, boulevard Arago. Donc, c'est étonnant quand même, comme des choses initiales marquent pour la vie. C'est toujours étonnant quand on regarde des parcours comme ça. Mmh. Donc, continuons en ce moment-là, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de charnières. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Alors après, y a eu plusieurs choses. D'une part, j'ai commencé à travailler comme animatrice biblique dans la région de Montbéliard. Et puis, au niveau de la formation, alors maintenant, tout se mélange un peu, je ne sais jamais dans quel ordre
ça s'est passé.
Mais j'ai voulu continuer aussi le travail de recherche sur l'Ancien Testament et je suis allée passer 2 ans à Jérusalem, à l'école biblique et archéologique française. Ça a commencé en fait par un été où je suis allée faire des fouilles archéologiques et où j'ai eu envie de continuer. Voilà.
Encore un départ et encore une confirmation de ce que vous aviez découvert avant, en fait, à chaque fois. Donc là, encore 2 ans à Jérusalem et là, vous êtes... je pense que le parcours théologique... est abouti, non? Est accompli à ce moment-là ou...
On n'est jamais au bout. Hein.
D'accord. donc là, vous arrivez, vous êtes animatrice biblique dans la région de Montbéliard. Vous n'avez pas encore franchi le saut pour arriver un peu plus à l'ouest, semble-t-il.
Ouais, mais ça va venir.
Ça va venir. Alors évidemment, Corinne Lanoir, nous suivons un parcours, nous suivons une trace. Nous allons parler de l'atelier protestant et c'est un... Et loin de moi l'idée ici de résumer quelqu'un. Je sais très bien qu'en partageant un peu que vous êtes amatrice de musique et en particulier... non, pas en particulier, ça c'est moi qui ajoute ça. J'enlève ce « en particulier », donc le montage n'est pas possible, mais en tout cas de jazz. Et on va écouter un extrait qui me paraissait intéressant dans ce que vous avez choisi. Comment s'appelle ce pianiste que vous avez choisi?
Alors, ce pianiste s'appelle Alessandro Sgobbio. Mm-hmm. Il est italien, oui. Il est vaudois. On s'est rencontrés pas du tout par la musique, mais par l'église vaudoise, les groupes de jeunes. Et il a fait un parcours tout à fait... magnifique en musique. Et il est arrivé à Paris pour faire le conservatoire au moment où moi je suis arrivée aussi à Paris. Et donc on a eu un moment où on a pu échanger arriver un petit peu en même temps et s'installer ici.
Très bien, on y va. On va écouter une partie d'un morceau pour l'instant, notre première interruption musicale.
Thank you.
Culturel, une émission sur Fréquence Protestante, et aujourd'hui je suis Robert Philippoussi et j'accueille Corinne Lanoir, professeure d'Ancien Testament à la faculté de théologie protestante de Paris et qui nous raconte déjà son parcours. On va parler de son engagement général mais de professeur et aussi à l'atelier protestant. On vous laisse un peu de suspense pour certains des auditeurs qui ne savent pas de quoi on parle. Corinne Lanoir, le Nicaragua, c'est un moment important de votre parcours. Pourquoi vous êtes allée là-bas? Comment fait-on? Pourquoi décide-t-on d'aller au Nicaragua?
Alors, en fait, j'ai été très sensible au moment du coup d'État du Chili, avec Pinochet. Et à ce moment-là, il y a eu pas mal de réfugiés chiliens qui sont arrivés en France, entre autres, par exemple, un des grands théologiens de la Libération, Pablo Richard, qui est mort l'année dernière. J'avais envie d'aller travailler en Amérique latine. J'avais pas un pays spécialement précis en tête. Et puis à cette époque-là, à la fac de théologie déjà, il y avait un professeur qui était Georges Casalis, qui a beaucoup travaillé avec le Nicaragua. Bon, il y a eu la révolution sandiniste au Nicaragua en 79. Et donc, il s'est engagé, lui, à aller là-bas. Il est mort là-bas, d'ailleurs.
Oui, il a son cercueil, son... Ouais, non, il est enterré dans sa tombe, là-bas.
Et après donc sa mort, l'équipe avec laquelle il travaillait au Nicaragua a demandé s'il était possible que quelqu'un d'autre vienne pour continuer le travail qui avait été fait. Et ben voilà, ça s'est fait comme ça.
Vous avez remplacé Georges Casalis.
Oui, enfin, j'ai continué le travail d'une autre façon.
Oui, c'est... vous le connaissiez, Georges Casalis.
Oui.
Vous avez été son étudiante?
Alors, pas vraiment, parce que j'ai pas été étudiante à Paris, en fait.
Jamais?
Enfin, pas officiellement, en tout cas. J'ai suivi un certain nombre de séminaires.
C'est mieux de ne pas rester tout le temps sur place toute sa vie, finalement.
Voilà. Mais je l'ai rencontré dans beaucoup de ces centres, à Celles-sur-Belle, à Glay, etc. Et il a fait partie de ceux qui ont éveillé.
Oui, c'était un éveilleur et ses prédications ont beaucoup marqué des générations d'étudiants et même de gens qui le lisaient, y compris par écrit, ce qui est assez rare pour des prédicateurs. Est-ce que vous avez été marqué plus par son engagement, plus par ses prédications? Qu'est-ce qui vous a touché chez cette...
Alors, ça a été plus l'engagement, et puis après, ses livres. Mais
Donc, au Nicaragua, vous y êtes resté quelques années?
3 ans, envoyé par le DFAP.
Oui.
Comme prof à la fac de théologie. Et en fait, depuis, j'y retourne pratiquement tous les ans.
D'accord.
Donc, ça fait plus de 30 ans maintenant. Sauf pendant le Covid, qui a été aussi une période douloureuse là-bas.
Donc, c'est votre second pays, là, maintenant?
Oui.
Le premier étant plus vers Paris ou plus l'Europe ou plus Montbéliard, enfin je ne sais pas.
On va dire l'Europe.
L'Europe,
plutôt.
Hein. Très bien. Donc, ce qui nous amène finalement sur le boulevard Arago, du côté 14e arrondissement, là où vous enseignez en tant que professeur d'Ancien Testament. On dit Ancien Testament aujourd'hui ou on dit
non? Oui, on discute Premier Testament, Ancien Testament.
Ou Bible hébraïque.
Bible hébraïque.
Vous dites quoi?
Quand je fais attention et quand il faut bien être précis, je préfère parler de Bible hébraïque.
D'accord. Donc là, vous avez été doyenne oui. de cette institution vénérable. Et aujourd'hui, je sais que les doyens tournent oui. dans cette faculté. Donc vous connaissez son historique par cœur. Je ne vais pas vous interroger là-dessus, vous en faites pas. Mais je sais qu'actuellement, va se mettre très rapidement en place une évocation de toute l'histoire oui. de l'Institut protestantologie de 1972 à nos jours.
Donc, 50 ans.
50 ans quand même. Donc cette institution a évolué comme beaucoup d'autres. Un petit regard, avant de parler presque de l'atelier protestant, qui est un carrefour. La faculté, c'est aussi un carrefour d'étudiants. Ça fait un certain temps que vous enseignez là-bas, donc vous avez vu des effets, peut-être avez-vous vu des effets de génération. Est-ce qu'il y a des tendances Est-ce que vous avez vu on raconte beaucoup que aujourd'hui, par exemple, l'Église protestante unie ou luthérienne ne fournit plus, comme elle le fournissait en temps, des pasteurs, et que c'est d'autres, que les candidats pasteurs viennent d'autre part. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe qui nous traverse ?
Alors, ça dépend, je dirais, ça dépend des années. On peut pas.
Il n'y a pas de tendance longue là-dessus.
Non, et on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer dans l'année d'après.
Bien
sûr. Donc on a quelques années où on a un groupe assez fourni d'étudiants qui sont dans ce qu'on appelle le. Enfin, on appelle ça comme ça, mais le master professionnel,
oui.
Donc qui se dirige vers le pastorat. Il y aura une année sans doute plus creuse d'ici 2-3 ans, et après, on n'en sait rien. Ce qu'on peut dire, c'est que le groupe des étudiants est très, très hétérogène
oui.
Et assez précaire.
Précaire
oui.
Dans le sens de, social du terme.
Voilà, oui. Et donc ça informe d'une certaine façon les groupes d'étudiants qui parfois ont du mal à pouvoir continuer leurs études par manque de moyens, par manque de disponibilité. Parce qu'ils doivent travailler.
C'est parfois le sort de tous les étudiants aujourd'hui, de plus en plus.
Ouais, ouais.
Là, il y a une particulière précarité ou c'est la précarité classique de beaucoup d'étudiants à Paris en particulier ?
Je pense que c'est assez partagé avec d'autres, mais nous, on la voit très clairement parce qu'on est très proche en fait, des étudiants, c'est des petits effectifs, donc on sait ce qui se passe pour eux. Et on intervient aussi. C'est là le sens d'ailleurs en particulier d'une association qui s'est créée des amis de la faculté de théologie.
De la faculté de théologie protestante ?
Oui, l'AMIPAT.
L'AMIPAT, et on peut donner à cette association.
Bien sûr, oui.
Comment on fait pour donner, d'ailleurs ?
Alors, on trouve sur le site de l'IPT les coordonnées, et puis voilà.
Oui, parce qu'on peut rappeler à nos auditeurs que si les membres qui nous écoutent, qui sont membres d'une paroisse ou d'une autre, si ces membres veulent des pasteurs dans l'avenir, c'est bien d'aider ceux qui veulent l'être et
oui.
qui parfois renoncent pour des raisons de précarité, tout simplement.
Ouais.
Et je suis sûr qu'il y en a.
Ouais.
Parce qu'il est très difficile de suivre des études, de devoir travailler en simultané
ouais.
et surtout sur un très long terme.
Ouais.
On ne va pas évidemment parler de tout l'histoire de l'IPT ni de la formation ni rien, mais bon, au milieu de cette IPT, de cet Institut protestant de théologie à Paris, il y a l'atelier protestant.
Ouais.
Alors pourquoi qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi et qu'est-ce que cet organisme en plein milieu de cette institution?
Alors donc, l'atelier protestant, ça s'intitule un carrefour culturel, éthique et théologique. Donc c'est une sorte... c'est un service de l'Église protestante régionale. Il a une histoire longue sur laquelle je vais
très
pas
bien.
Revenir. Mais en tout cas, il y a eu deux associations qui ont à un certain moment fusionné et qui ont donné donc cet atelier protestant qui s'intéresse en fait à faire parler la théologie et le monde ensemble.
Mmh.
Et donc, ça peut prendre différentes formes. Et puis, donc, le bureau du permanent qui normalement, s'occupe de l'atelier protestant.
Normalement, parce qu'en ce moment,
parce
il n'y a pas...
Parce que pour l'instant, il n'y en a pas.
C'est un pasteur, en général.
Oui. Et donc, ce bureau est à la faculté de théologie. Et pour nous, à la faculté de théologie, c'est important que ce bureau soit là. Parce que, alors pas seulement le bureau, mais disons qu'il y ait une synergie un peu entre certaines activités de l'atelier protestant et de la fac. Parce que ça ouvre sur le monde, ça permet des rencontres et des débats avec les étudiants aussi, que sinon ils n'auraient pas forcément. L'atelier organise pas mal d'expositions en particulier.
Oui, dites-moi en plus là-dessus.
Alors, on a eu une grosse exposition sur les 50 ans du Récup Art, par exemple, avec Ambroise
Récup
Monod.
Récup
Art.
Je dis ça pour...
Voilà. Qui recrée des objets à partir d'objets qui vont à la poubelle, en principe, des déchets, des emballages.
Ça veut dire que ça rend esthétique des objets qu'on met à la décharge ?
Ouais.
OK.
Et alors, des petits, des grands, ça dépend. Enfin, il y a vraiment beaucoup de travail là-dessus. Mais l'idée, c'est que voilà, il y a une nouvelle vie pour un objet qui a été rejeté. Et ça... théologiquement, on peut en faire quelque chose.
Qu'est-ce qu'on peut en faire, justement ?
Alors, y a d'abord toute la réflexion, alors aujourd'hui écologique, sur la question des déchets dans la société d'abondance et de tout ce qu'on jette et qui pourrait avoir une deuxième, voire une troisième vie. Et puis, il y a l'idée de créer à partir de matériaux abandonnés, comme la pierre qu'on a rejetée et qui devient la pierre d'angle à partir de laquelle on va bâtir dans les évangiles. Et puis, il y a aussi la question de l'imagination, de donner une nouvelle place visuelle à quelque chose, mais où on peut décider, à partir de quelque chose qui était une boîte de sardines, d'en faire complètement autre chose. Et donc, là, il y a aussi une façon de voir le monde, de voir qu'il y a des choses qu'on peut changer aussi. La liberté de créer, de dépasser les conventions. Et ça, je trouve que c'est un geste aussi intéressant théologiquement pour les étudiants qui arrivent, qui sont parfois un peu enfermés dans des modèles, dans des cases. Et que
oui, dans leurs a priori, pour aller faire des études de théologie, voilà. C'est bien qu'ils...
Bon, et ils s'aperçoivent assez vite qu'il faut déconstruire pas mal de choses avant de pouvoir construire une théologie, mais cette façon-là de le dire peut aussi leur parler.
Et comment vous faites la connexion entre ces étudiants qui ont envie de suivre leur cursus biblique, Ancien, Nouveau Testament, etc., on leur propose quand même un circuit pour qu'ils s'intéressent à ce que fait l'atelier protestant, qui est une sorte de cours permanent sauvage, en fait. Est-ce que l'atelier protestant, par exemple, j'essaie de me contredire éventuellement, figure-t-il dans l'enseignement, dans le cursus ?
Alors non, il n'est pas dans le cursus, mais il est, d'une part, il est présent de fait, parce que quand il y a une exposition dans le hall, tous les jours, les étudiants la traversent. Donc quand elle leur plaît, ça va. Quand elle ne leur plaît pas, c'est moins facile. On a d'ailleurs eu des discussions à partir de là, parce qu'on a eu, par exemple, une fois une exposition de quelqu'un qui s'appelle Courajec, et son exposition s'appelait « Objets habités ». Et donc, c'était un peu sur les idoles, les fétiches, etc. Et il y avait effectivement des figures assez impactantes. Et pour un certain nombre de nos étudiants, en particulier les étudiants africains, ils ont réagi assez fortement à cette irruption et cette invasion pour eux d'objets, alors que ils ont tout de suite réagi en disant pour nous les fétiches c'est aussi très nocif, très maléfique, et donc qu'est-ce que c'est que cette invasion à la faculté de théologie d'objets qui peuvent être des idoles, qui peuvent être des fétiches.
Je suppose que vous ne vous y attendiez pas à cette réaction,
non,
bizarrement.
Pas, on n'avait pas anticipé. Alors, c'est probablement qu'on n'a pas assez bien expliqué avant. Donc voilà, ça nous permet d'apprendre.
Mais en même temps, c'est le propre de toute expo, indépendamment du sujet théologique ou pas, une expo qui est censée dire quelque chose. Parfois, on propose des expos et les réactions sont sauvages. Alors que le propos de l'expo initiale n'avait rien à voir avec ce que les gens interprètent. Ils voient une parole intentionnelle. Alors, comment vous avez réglé ce petit problème d'idolâtrie en plein milieu de la faculté de théologie protestante de Paris ?
D'une part, on a fait ce qu'on fait de temps en temps avec les étudiants, ça s'appelle un sandwich débat, où donc sur l'heure de midi, un jour, on se réunit, on mange un sandwich ensemble et puis on discute. Donc on a essayé d'expliquer un peu la question. Et puis il y a eu une table ronde aussi organisée sur la notion de fétichisme.
Ça peut faire partie des cours aussi, d'une certaine manière, ces perceptions religieuses à travers des objets.
Bien sûr. En Ancien Testament, on parle d'idole. Hein,
tout ça, à fait. Ça s'est résolu, les gens se sont calmés.
Oui.
J'ai entendu évidemment parler, comme beaucoup de gens, parce que l'atelier protestant ne se résume pas à la faculté de théologie.
Il est censé
rayonner dans toute la région parisienne et même parfois au-delà.
Ouais.
En particulier avec une exposition que beaucoup de gens ont apprécié ou vu. Quel était le titre déjà ?
Alors, il y a « Traits d'esprit ».
C'est « Traits d'esprit », oui.
Celle-là. Donc, « Des images pour ne pas se prosterner ».
D'accord.
Ça, c'est une exposition qu'on avait pensée pour 2015, en fait, et qui est arrivée juste après les attentats. Ce n'était pas prévu, évidemment.
Même avant Charlie Hebdo, vous l'avez pensé ?
Oui.
Ça, c'est de la prophétie absolue.
Oui. Et d'ailleurs, on devait avoir Tinius qui devait venir participer à des tables rondes dans le cadre de cette exposition.
Elle a eu beaucoup de succès.
Oui.
Elle est beaucoup demandée encore.
Et elle tourne. Maintenant un peu moins. Mais elle a beaucoup tourné, oui. Mmh. Oui.
Donc vous êtes présidente de l'atelier protestant et professeur. Vous avez été doyenne de la fac en même temps que présidente aussi, ça a dû se coïncider.
Non,
peut-être pas.
Ça a été consécutif.
Donc vous êtes au cœur de la problématique justement de l'interaction entre les activités de l'atelier. C'est important pour vous l'atelier, vous ne voudriez pas qu'il disparaisse ?
Ah ben non, pas du tout, parce que c'est vraiment une belle fenêtre sur toutes sortes de choses et une façon aussi de pouvoir proposer à des paroisses quelque chose d'un petit peu différent qui va peut-être un peu renouveler si une ou l'autre paroisse cherche à faire une animation, une série de soirées sur un thème ou de faire venir une exposition avec une ou deux animations liées à cette expo.
Elle vous contacte.
Voilà.
On va faire une petite minute avec Alexandro, celui que vous connaissez, ce pianiste. Une minute et après on repart. De parcours culturel avec la professeure Corinne Lanoir. Vous avez choisi cet auteur et on va laisser le soin aux auditeurs, s'ils ont envie de réagir, nous dire s'ils ont reconnu quelque chose dans ce qu'ils ont entendu, d'accord ? Donc Alexandro, vous pouvez prononcer son nom, Scambio, est un musicien et un protestant vaudois que vous avez rencontré au moment de vous arriver à Paris, tous les deux, c'est ça ? Très bien, merci de nous l'avoir fait découvrir. Moi, j'étais très contente de découvrir ce musicien et je pense que je vais en profiter après. Et il repassera ici, sur cette antenne, plusieurs fois, ça vous le garantit. Maintenant, toujours pour parler de l'atelier protestant que vous animez avec d'autres, en interaction avec la fac, Donc c'est une vraie question aujourd'hui de ne pas séparer la théologie de la vie du monde, puisque c'est vrai qu'il y a une certaine tendance à la théologie, à creuser son propre sillon et puis ne pas regarder ailleurs, comme si c'était déjà un terrain... Voilà. Et donc l'Atelier protestant est un organisme, fait partie de ces organismes charnières qui n'est pas d'un côté ni de l'autre, mais qui travaille les deux en simultané à partir de ce qui se présente à nous. Donc aujourd'hui, donc l'Atelier protestant, comment le défendriez-vous, comment mesurer son importance, pas que symbolique, hein, dans son action, mais aussi dans ce qu'il propose, dans ce qu'il dit?
Alors, d'une part, je dirais que c'est important de faire ce geste de croiser la théologie et le quotidien, et que donc de réfléchir à partir de ce qui se présente à nous. On n'a pas forcément un plan prévu pour 5 ou 10 années avec un projet de l'Atelier protestant sur on va faire ceci, on va faire cela. On est très attentif à des propositions qui peuvent être faites, de gens qui se présentent, qui veulent faire une expo, ou de thèmes qui tout d'un coup deviennent vraiment importants. Là, dernièrement, on a beaucoup proposé de choses sur l'Église verte, sur l'écologie. Il y a une exposition qui tourne beaucoup maintenant sur les jardins, le monde comme jardin.
Le monde comme jardin, ouais. Référence au jardin d'Éden.
Alors, référence à toutes sortes de jardins. Dans toutes sortes de cultures et de religions, parce qu'en fait, la façon dont on organise ces jardins est une façon aussi de dire comment on organise le monde. Et ça commence depuis les Perses, qui ont des jardins fermés, mais qui représentent une sorte de miniature du monde. Et ces jardins s'appellent Pardès, donc c'est l'origine du paradis. Donc voilà, et après ça va se décliner très différemment en Inde, dans l'Europe occidentale, et ailleurs. Et donc, chaque fois, c'est une façon de comprendre comment on structure son monde, comment on le voit, comment on l'organise.
Déjà, si on se voit en tant qu'humain comme le jardinier ou comme si on se voit comme une création de ce jardin parmi d'autres.
Bah oui.
On a tendance à se voir comme le jardinier de ce jardin.
Ça dépend si on y est chassé, si on est dedans, dehors, si on peut y entrer ou pas. Enfin, voilà.
Ça, c'est une... De quoi s'agit-il ? D'une exposition ?
Une exposition, oui, qui est déjà montée.
Itinérante aussi ?
Oui, itinérante, ouais, qui est disponible aussi, et qui tourne beaucoup actuellement.
Qui a pris le relais, finalement, de l'autre.
Bon, donc, voilà, ça...
Et quels sont les retours ? Quel type de retours vous avez de gens qui ne sont pas... Enfin, qui sont membres d'église, ou quel type de retour on peut avoir face à cette expo ?
Ça ouvre beaucoup de pistes, en fait, parce que ça fait réfléchir à partir de d'un élément qui semble un peu anecdotique, qui semble pas religieux, qui semble pas, et en fait quand on regarde, ça fait partie aussi de toute la de toute cette façon de concevoir à la fois une foi, une présence au monde, et de la confronter aussi à d'autres. Et il y a des jardins partagés aussi, et il y a toutes sortes de possibilités.
Très bien. Donc ça, c'est une façon... Alors, oui, dites-moi.
Oui, ça, c'est une chose. Et puis on a commencé aussi une série de brunchs théologiques, de moments de lecture commune.
De lecture de la Bible ?
Non, de lecture de livres que l'un ou l'autre a lu.
Quand vous dites lecture, c'est des gens qui ont lu le livre et qui en parlent, ou c'est de la lecture des livres ?
Alors en fait...
Je sais que je suis un peu bête, mais je fais exprès.
Non, mais c'est vrai que c'est... Tout dit des choses dans la façon dont... Alors, ce n'est pas une conférence sur un livre.
D'accord.
Il n'y a pas un spécialiste qui vient parler d'un livre, ni un auteur. Ce sont des gens qui se sont mis d'accord le mois d'avant pour lire un livre, un petit livre en général, ou quelques chapitres. Et puis il y a quelqu'un, une ou deux personnes, qui se chargent de faire une petite introduction et de présenter un peu ce qu'elles ont lu et comment elles l'ont lu et ce qui leur a semblé intéressant. Et ça continue avec une discussion autour d'un café et de quelques gâteaux, et un samedi matin.
En lien avec la faculté de théologie, avec les étudiants ou...
Alors, un ou deux étudiants qui viennent. Bon, c'est pas toujours facile de faire venir les étudiants, surtout le samedi.
Surtout qu'ils n'habitent plus sur place.
Voilà. Ça, et puis, bon, les étudiants, ça passe. Donc, il faut leur expliquer chaque fois, tous les ans, ce qui peut... Mais on espère bien pouvoir...
Quel était le dernier livre que vous avez lu ensemble ?
Alors, il y en a eu deux. Donc, il y en a eu un, c'était le livre de Jacques Rancière qui s'appelle « Les 30 Inglorieuses ». Et puis, le dernier, c'était Bruno Latour, mémo sur la nouvelle classe écologique.
Oui, c'est très bien. Enfin, c'est, déjà, vous citez deux de mes auteurs favoris, donc c'est très bien. Voilà. Il y a le maître ignorant aussi de Jacques Arancière qui pourrait être utile pour les étudiants
bien,
aussi.
Oui, ça, tout à fait.
Donc ça, c'est à encourager vivement, puisque, en fait, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de personne surplombante, ni l'auteur, ni personne qui vient dire « je suis le spécialiste d'un tel et je vous explique comment il faut faire ».
Et en même temps, on essaye de créer un espace d'échange où tout le monde est à égalité et où on travaille à la fois sur le politique, le spirituel, le social, l'économique, enfin tout peut être intéressant. Et pour, disons, la philosophie de l'atelier protestant, c'est bien ça l'idée de ce carrefour, à la fois pour des gens, pour des idées, pour une façon de faire de la théologie, pour faire de l'évangélisation, parce qu'on n'est pas obligé d'arriver avec une Bible en main et un message
formaté,
tout cuit.
Oui, parce que vous ne reniez pas, l'atelier protestant est un service d'évangélisation.
Absolument.
Et protestant. Et évidemment, aussi, quand vous transmettez des notions aussi importantes que qu'est-ce qu'on fait dans le monde, qu'est-ce qui nous motive, et des notions d'engagement. Finalement, ces lectures en commun, ça me rappelle quand même, on dirait un rituel. Ça ressemble, parce que ça manque quand même dans nos églises protestantes où il y a quand même des personnes comme ça qui se donnent libre cours et tout peut être remplacé par n'importe quoi. Il n'y a plus de rituel. Certains s'en plaignent et d'autres de façon amère. Moi, je m'en plains d'une façon révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est quand même bien qu'il y ait parfois des moments où, par exemple, on étudie ensemble ou on lit ensemble. Peut-être que c'est important d'avoir un rituel, y compris dans l'atelier protestant, comme un petit cœur qui fait battre tout le reste. Ce serait bien qu'il y ait des rituels dans nos églises protestantes de temps en temps. Personne ne va comprendre ma phrase, mais ce n'est pas très grave.
Et des rituels collectifs, surtout.
Des rituels collectifs, oui, à l'instar de certaines formes de rituels dans le judaïsme, où il peut y avoir des choses comme ça qui structurent. Bon, alors... Nous avons eu l'occasion ici même, dans cette radio, d'accueillir les acteurs de la définition du prix protestant, de l'auditoire, mais c'est l'atelier protestant en fait, on ne va pas rentrer dans les détails, donc le prix protestant en fait, donc ça c'est chaque année, hein, de toute façon. Donc en quoi l'atelier protestant est-il, selon vous, utile ou voire indispensable à la vie de nos églises? Parce que c'est un service d'église, donc vous en avez dit déjà beaucoup. Comment aller plus loin? Comment faire apercevoir aux églises qu'elles ont besoin de ce service en fait, régional, comme le service catéchèse, comme le service de formation à la prédication ou d'autres services? Je ne peux pas les lister là, mais...
Il est utile justement dans le sens où il ne sert pas à grand-chose, en fait.
Et ce serviteur inutile, quelconque.
Et on a un certain nombre de propositions, et puis on peut en faire d'autres. On peut aider, alors surtout des petites paroisses qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément toutes les ressources nécessaires pour organiser des choses. Donc ils ont là déjà du matériel un peu prêt. Et puis, surtout, c'est vraiment cette idée de carrefour, de comment une église peut partager des points de vue différents et avoir des options différentes. Et puis, se mettre ensemble et essayer de réfléchir, pas forcément à avoir une ligne commune théologique, mais plutôt à comprendre qu'est-ce qui se passe chez les uns, chez les autres, comment on réfléchit et quels sont les points essentiels sur lesquels on a envie d'avancer.
Merci. Et quel serait l'avenir immédiat de l'atelier? Vous pensez que cette...
on a besoin de nouveaux bénévoles, on a besoin de gens qui...
De nouveaux engagés,
qui s'engagent, parce que... on ne cherche pas du tout à prendre les gens dans les paroisses pour créer une forte association. Au contraire, chacun reste chez soi, peut s'engager avec nous sur une idée, un projet qui lui convient.
Merci beaucoup Corinne Lanoir, qui est professeure d'Ancien Testament à la faculté de théologie protestante, exégète, bibliste, mais aussi présidente de l'atelier protestant, qui est un service régional de l'Église protestante unie de France en région parisienne. Donc c'est un serviteur utile, je dirais. Voilà, cette émission Parcours culturel se termine. C'était Robert Philippoussi et on se retrouve tous les premiers samedis du mois à 16h15 et en rediffusion. À très bientôt. Crazy, but I still think someday you'll show.